Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, excellent réveil, très bon 1er mai à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Plus que jamais, souriez, vous êtes filmés. Les radars au bord des routes n'ont jamais rapporté autant d'argent. 2 milliards d'euros l'année dernière en France, on se croirait en boîte de nuit, tellement ça flash par endroit.
Et est-ce qu'il faut en finir d'ailleurs avec la politique du tout radar quand on voit que la mortalité routière repart à la hausse? Vous continuez à témoigner au 32-16 et on en débat à 7h40.
Jusqu'à 150 000 personnes attendues dans la rue en ce 1er mai, fête du travail. C'est nettement moins que l'année dernière dans le contexte de la réforme des retraites. Et puis le foot, Paris en Allemagne pour sa demi-finale aller de Ligue des Champions contre Dortmund ce soir 21h sur RMC au lendemain du match nul de partout entre le Bayern et le Real.
Les radars ont rapporté un pactole de 2 milliards d'euros l'année dernière en France.
Oui, en fait, ils n'ont jamais rapporté autant d'argent. C'est ce que nous dit la Cour des comptes. C'est en hausse de 7% sur un an. Et le meilleur exemple, c'est le radar automatique d'Épinay-sur-Seine en banlieue parisienne. Il flash tout le temps, nous dit Romain Poiseau sur place pour RMC.
C'est ce que Sébastien appelle un radar sournois.
Il est planqué derrière un panneau publicitaire. Il est là de temps en temps et après il le bouge, il le met sur une autre rue derrière et il revient. Quand tu prends l'habitude qu'il n'est plus là, tu te fais flasher.
Et ce radar automatique qui flash à 50 km/h sur une 4 voies a déjà verbalisé Sébastien 2 fois cette année. Le soir, c'est un vrai festival.
C'est incroyable. Quand on mange, il y a un restaurant qui est un peu plus haut. Quand on se met au restaurant et qu'on mange là-haut, on voit les flashs toute la soirée. Ouais, c'est un peu boîte de nuit ici. Ouais, c'est marrant. Pour celui qui est assis à table, pas sur celui qui est dans la voiture. C'est pour faire de l'argent, clairement.
Et l'année dernière, les radars automatiques ont rapporté près de 750 millions d'euros à l'État, soit une augmentation de 5,7% par rapport à l'année précédente. Mais où va cet argent? La réponse d'Arnaud Aimé, spécialiste des transports chez SIA Partners.
Une petite moitié va vers des mesures pour améliorer la sécurité routière. Il y a un tiers de ces recettes qui va plutôt vers l'investissement dans de nouvelles infrastructures de transport en France. Et puis ce qui reste, c'est consacré à destination des collectivités locales pour abonder leur budget.
10% des recettes liées aux amendes servent aussi à rembourser la dette de l'État.
On est le 1er mai, pas de jour férié quand on est en campagne. Voilà ce qu'a lancé à ses troupes le Premier ministre Gabriel Attal hier soir à un mois des élections européennes. Le RN, qui est donné en tête des sondages, tiendra un meeting à Perpignan aujourd'hui pour la deuxième année de suite hors de Paris. Jusqu'à 150 000 personnes sont attendues dans la rue partout en France pour les traditionnels défilés du 1er mai, fête du travail. Un an après la mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats s'attendent d'ailleurs à ce qu'il y ait nettement moins de monde aujourd'hui dans les cortèges, par exemple à Angoulême, où vous êtes Pierre Bourgès pour RMC.
Pour le 1er mai 2023, à Angoulême, près de 8000 personnes se mobilisaient contre la réforme des retraites. En 2024, ce sera sûrement moins. Magali avait pris l'habitude de manifester, mais elle n'y voit plus l'intérêt.
C'est une lassitude, ça sert à rien, puisqu'ils ne nous écoutent pas. En fait, on n'obtient rien du tout, donc voilà.
Un constat partagé par Sylvie Lavaux, militante force ouvrière d'Angoulême.
Les gens, en fait, je pense qu'ils sont arrivés à un stade où ils ont été, entre guillemets, un peu blasés. Ils partent plus dans leurs problèmes personnels, plutôt que de continuer à s'investir et à continuer le combat.
Elle distribue des tracts ce matin au marché d'Angoulême. C'est le mode d'action de Force Ouvrière pour ce 1er mai. Les gens ne prendront pas le temps de se mobiliser davantage cette année, craint Henri Lalouette, secrétaire général FO Charente.
Pour l'instant, je dirais que les gens sont plutôt dans une forme de fatigue. On souhaiterait que ça se passe autrement, il faut être très clair. On souhaiterait voir des dizaines, voire des centaines de milliers de gens dans la rue. Le fait d'aller au marché distribuer effectivement ces tracts nous permet de créer cette rencontre dans un contexte différent où les gens vont être peut-être plus détendu.
Discuter notamment de l'augmentation des salaires, c'est la priorité des syndicats pour ce 1er mai.
Je vous signale aussi que la CGT à Paris, la CGT des éboueurs dans la capitale, a déposé 2 préavis de grève pour toute la période qui va couvrir les Jeux Olympiques, les mois de juillet, août, 2 autres périodes également au mois de mai. C'est toujours le bras de fer qui continue dans les transports pour demander des primes JO, notamment. C'est une information RMC. On y reviendra tout à l'heure dans le journal à 7h30. Nouveau vol, tiens, qui fait désordre, puisqu'une responsable de l'organisation des JO à Lille s'est fait dérober 2 ordinateurs dans sa voiture. C'était lundi soir, sans qu'on ne sache la nature des données que contenaient ces ordinateurs. Voilà ce que nous dit le parquet. Il y aura une marche blanche samedi à Châteauroux en hommage à Matisse, l'adolescent de 15 ans qui a été poignardé à mort. C'était samedi dernier dans cette ville de Châteauroux. Marche blanche organisée à l'initiative de ses amis. Et alors en attendant, c'est son papa qui lui rend hommage sur les réseaux sociaux, Julie Brault.
Oui, c'est dans une publication sur Facebook que le père de Mathis a d'abord décrit avec beaucoup d'émotion des moments joyeux partagés avec son fils. « Tu étais le roi de la gaffe, bourré d'humour, un vrai gentil, prêt à tout pour tes amis », écrit-il. Un père très ému mais qui refuse de basculer dans la haine et la colère. « Je vais vivre pour toi et me marrer en ta mémoire », assure-t-il. Inondé de centaines de messages de soutien depuis 4 jours, il a notamment déclaré à nos confrères de France 3 avoir reçu un appel du Premier ministre Gabriel Attal. Je lui ai dit que j'espérais que la justice sera maximum, dit-il. Une justice très ferme donc, mais aucune violence, implore le père de famille, notamment lors de la marche blanche organisée pour son fils samedi prochain. Mathis était un gamin super gentil. On veut quelque chose qui lui ressemble, finit-il par souffler.
Il est 7h05 ce matin sur RMC. On apprend la mort du célèbre romancier américain Paul Auster. Il avait 77 ans, mort d'un cancer du poumon. Paul Auster rendu célèbre pour sa trilogie new-yorkaise. Aux États-Unis, tiens, la police est entrée cette nuit dans la célèbre université Columbia pour déloger les manifestants pro-palestiniens sur le campus depuis 2 semaines à New York, qui se barricadaient même depuis 48 heures. Les images de l'intervention de la police ont été diffusées en direct sur les télés américaines. Écoutez avec Romain Hougue.
C'est à la nuit tombée que des dizaines d'hommes de la police new-yorkaise, tout en noir, casqués, parfois cagoulés, investissent le campus. Les forces de l'ordre encerclent d'abord le bâtiment occupé.
Reculez, reculez!
On y va les gars, on évacue. Avant d'y pénétrer jusque par une fenêtre du premier étage à l'aide d'un véhicule muni d'une échelle et d'en ressortir menant une cinquantaine de manifestants menottés vers un bus affrété spécialement pour l'opération. Depuis la nuit dernière, des dizaines de manifestants s'étaient barricadés dans le bâtiment scandant des slogans pro-palestiniens. Une occupation initiée par des agitateurs extérieurs, dit le maire de New York. Affirmation démentie par le leader du mouvement. Et pour éviter de nouveaux débordements, la présidente de Columbia a demandé à la police de New York de maintenir sa présence au moins jusqu'au 17 mai prochain.
Autre information de la nuit, le Royaume-Uni a dit ces dernières heures avoir envoyé un premier demandeur d'asile au Rwanda dans le cadre de sa loi controversée qui est passée la semaine dernière, loi qui permet désormais aux Britanniques d'expulser des migrants à qui l'asile a été refusé vers ce pays d'Afrique. Et puis c'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain en football. Paris qui va disputer sa demi-finale aller de Ligue des Champions chez le Borussia Dortmund à 21h ce soir. Dortmund où les Parisiens n'ont jamais gagné et où ils feront face au célèbre mur jaune. Cette tribune impressionnante aux couleurs du club allemand qui fait un bruit assourdissant que nous décrit Valentin Jamin.
25 000 supporters debout et déchaînés, habillés en jaune et noir. Dans une tribune de 40 mètres de haut, 100 de large et une inclinaison à 37 degrés, un vrai mur où on n'arrête jamais de chanter.
You have black and yellow adrenaline.
L'adrénaline jaune et noir, dit Sébastien Abonné.
We call it Gänse.
On a des frissons dans tout le corps, c'est dingue, il faut le vivre. C'est un peu étrange à la fin du match car vous êtes fatigué, mais d'un autre côté vous êtes surexcité, c'est génial.
It's awesome.
Les abonnements s'y transmettent de génération en génération. Avec ses animations exceptionnelles, le mur jaune est un atout dans les grandes affiches comme lors des deux dernières qualifications à domicile. La victoire en quart, 4-2 contre l'Atlético de Madrid a marqué Alex, supporter.
Contre l'Atlético, ma voix est partie pendant 3 ou 4 jours ensuite. L'atmosphère était incroyable, il y avait de la magie. Des milliers de gens ici rêvent d'y venir.
Dans son stade, Dortmund n'a plus perdu depuis 10 matchs en Ligue des Champions grâce à son public, pense Edin Terzic, l'entraîneur.
C'est une chose de le voir, c'en est une autre de l'entendre. Ça nous apporte beaucoup d'énergie, de confiance. C'est unique. Ils sentent qu'ils doivent nous apporter ce plus.
Confidence. Et Paris n'a jamais gagné devant ce mur jaune en 3 rencontres.
Soirée spéciale dès 18h sur RMC, vous en avez l'habitude. Je vous signale qu'hier soir, le Bayern et le Real ont fait match nul de partout avec un doublé de Vinicius pour les Madrilènes.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 7h08 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Gabriel Attal, fin janvier, la réponse aux émeutes de l'été dernier, des travaux d'intérêt éducatif vont voir le jour la semaine prochaine pour les délinquants âgés de 13 à 16 ans. Inutile, voilà ce que répond le témoin du jour. Il est éducateur à Marseille et il nous explique pourquoi dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h10 et on part en direct de Marseille.
Le témoin RMC.
À Marseille avec vous ce matin, Mohamed Benmedour, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes éducateur dans les quartiers nord. Est-ce que les travaux d'intérêt éducatif pour les délinquants de 13 à 16 ans, ça peut marcher ?
Est-ce que les travaux d'intérêt éducatif peuvent marcher ? Peut-être, oui, à l'âge de 13 ans, sur un cas de dégradation, voilà, pour dans le cadre d'une mesure de réparation, ça peut peut-être marcher, mais peut-être pas dans un trafic de stupéfiants ou des autres faits comme ça délictuels. Ces mesures, elles ne sont pas nouvelles, elles existent déjà, dans le cadre de la mesure de réparation. Donc aujourd'hui, le gouvernement n'a rien inventé. Il remet à l'ordre du jour des mesures qui existent déjà.
Et ce qui existe déjà, est-ce que c'est appliqué ? Est-ce que vous avez constaté parmi les jeunes avec qui vous travaillez, si certains ont commis des méfaits, est-ce qu'en effet, ils ont réparé derrière ?
Très peu ont réparé. Puisque il faut le dire aussi, il faut la volonté du jeune dans cette mesure de réparation. Si vous avez un petit jeune de 13-14 ans qui vous dit ben moi non, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie d'aller réparer, qu'est-ce que vous allez faire derrière ? Vous pouvez pas le mettre en prison, hein. Donc il faut aussi la volonté du jeune, et c'est pas pour cette raison-là que le jeune n'a pas récidivé derrière.
C'est-à-dire qu'il faut être dans une forme, il faut réussir à le convaincre.
Il faut réussir à le convaincre, et surtout, il faut un suivi régulier et dès le plus jeune âge. Donc, on a des signes comme ça précurseurs de jeunes, d'enfants qui, dès la scolarité, ont du mal avec le comportement et l'autorité. Et donc, c'est ces jeunes-là qu'il faut accompagner.
Précisément, Mohamed Benmedour, quand vous dites des jeunes qui, dès le début de la scolarité, on parle aujourd'hui d'une violence qui s'installerait ou d'un comportement violent qui s'installerait dès la petite enfance. J'avais le maire de Viry-Châtillon la semaine dernière, qui était mon invité à 8h30, je ne sais pas si vous l'aviez entendu, qui disait qu'il avait parfois déjà des cas en maternelle de violence, de harcèlement, et voire même il disait d'agression sexuelle. Est-ce que c'est des choses que vous constatez ? Est-ce que ça vient de plus en plus tôt ? Et quelle est la réponse qu'il faudrait apporter, vous qui avez l'expérience de ces jeunes ?
Ben oui, moi, en tant qu'éducateur, j'ai travaillé en ITEP, donc avec des enfants qui étaient enclins à des
troubles du comportement. C'est quoi l'ITEP ? Redites.
L'ITEP, c'est l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Donc, c'est une structure qui accompagne en fait les enfants qui ont des troubles du comportement dès le plus jeune âge, donc dès la primaire. C'est vrai qu'on vit dans une société violente. Ces enfants vivent un peu, baignent dans un climat de violence. Après, c'est multifactoriel. Donc, il y a aussi des problèmes de défauts de parentalité avec les familles monoparentales. Des mamans, beaucoup de mamans qui sont dépassées par leurs enfants, qui n'arrivent pas à contrôler leur enfant dès l'âge de 7, 8, 10 ans.
Mais je suis quand même frappée. Enfin, on parle toujours de ces mamans dépassées, mais pendant ce temps-là, ils sont où les papas ? Enfin, ils ont disparu dans la nature, je comprends pas.
Ben, les papas, soit ils sont démissionnaires, c'est simple, soit ils sont démissionnaires, ou eux-mêmes n'y arrivent plus, parce que...
Ouais, enfin, quand la maman, elle n'y arrive plus, elle est quand même là, et en général, elle n'a pas le choix, quoi.
Elle a pas le choix, et en plus de ça, le papa, même s'il veut intervenir, bon, à l'époque, il faut le dire, il y avait la gifle éducative, il y avait l'autorité du papa. Ben maintenant, les parents ont peur aussi, ils nous disent que si demain ils sont trop sévères avec leurs enfants, on peut leur retirer la garde.
Donc ils n'ont pas trouvé la nouvelle manière d'exercer une forme d'autorité ou de discussion ou d'explication avec ses enfants. Je rappelle quand même le contenu de la mesure qui va donc être appliqué, 20 heures de réparation dans une commune ou dans une association, puis 4 jours de stage de citoyenneté, en lien d'ailleurs avec l'établissement scolaire, avec un soutien éducatif. Voilà en tout cas l'objectif de la mesure pour les jeunes mineurs, je rappelle qu'ils n'ont pas de casier. L'idée, c'est vous avez commis quelque chose qui n'est pas bien, mais qui n'entraîne pas pour autant de casier judiciaire. Voilà, en effet, la manière de réparer sa faute, comme le dit le Premier ministre. Franchement, vous vous dites pas quand même c'est mieux que rien ?
C'est sûr, c'est toujours mieux que rien. À l'heure où on est, il faut expérimenter de nouvelles choses. Mais quand on a un jeune, comme je vous l'ai dit, avec des troubles du comportement, c'est pas ce stage de 20 heures ou cette petite mesure de réparation qui va tout résoudre. Donc là, c'est carrément un suivi sur du long terme. Mmh. Un suivi de long terme et sur de l'individuel.
Est-ce que vous en avez les moyens? C'est-à-dire, combien, par exemple, vous, votre quotidien, Mohamed Benmedour, vous occupez de combien de jeunes? Est-ce que vous avez les moyens de les suivre? Est-ce que vous pouvez les suivre d'ailleurs à long terme ou est-ce que c'est trop ponctuel?
Non, on n'a pas les moyens, puisque voilà, je vous ai fait part, par exemple, d'une structure comme l'ITEP, on n'a pas un, deux, trois jeunes. On a un groupe d'une dizaine de jeunes et faire de l'individuel, c'est très compliqué. Puis après aussi, il faut le soutien de la direction. Moi, je vais vous prendre un cas probant qui date pas plus tard de la fin du mois de janvier. J'étais animateur de prévention dans le quartier du Panier à Marseille et j'ai décidé de prendre quatre jeunes extrêmement turbulents dont l'animatrice jeune n'arrivait plus à les gérer. Je leur propose une sortie culturelle au musée de la moto dans les quartiers nord de Marseille. Ouais. Donc, je les accompagne. Écoutez bien, à la sortie du musée de la moto, nous tombons sur un corps calciné d'une jeune femme de 26 ans.
Ouf.
Et ce qu'ont fait les jeunes, puisqu'ils sont, on va dire, rodés à ce genre de vidéos, eh ben, ont sorti leur téléphone et ont filmé le corps de cette défunte femme. Et se sont retrouvés sur cette vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux, complètement hilar. J'ai dû ensuite rencontrer la famille de la défunte, m'expliquer. Et dès mon retour sur la structure deux jours plus tard, parce que ça a été le week-end, ben déjà, je n'ai pas eu d'assistance. Et on m'a reproché d'avoir trouvé un corps, vous voyez. Alors que là, c'était intéressant de travailler cela avec les jeunes, puisque quand j'ai commencé à établir un groupe de parole, il y a des choses qui se sont révélées, comme la consultation de vidéos particulièrement atroces. Donc les jeunes déjà, ils avaient 11-12 ans, ils regardaient des vidéos en fait dans les cartels mexicains de décapitation, démembrement, tout ça. Et malheureusement, ben on n'a pas aussi le soutien, vous voyez, nécessaire pour faire ce genre de travail qui est long et difficile.
Et donc au lieu de se dire au fond c'est un drame absolu, c'est atroce, mais on va débriefer ensemble, on va essayer de comprendre, on va faire sortir aussi toutes les émotions et essayer de finalement vous vous êtes retrouvé très seul quoi.
Exactement.
Enfin, ce que vous découvrez est quand même abominable, c'est-à-dire que vous nous parlez quand même de jeunes de 11 ans et effectivement on se dit c'est bien difficile derrière d'essayer de remettre une forme de sérénité et de dialogue. Quant à ça, ils sont confrontés non seulement dans le réel mais aussi dans les vidéos à ce genre d'atrocité. Courage à vous, merci en tout cas d'avoir partagé avec nous ce matin, qu'on ne soit pas que dans la théorie mais qu'on entende aussi ce que c'est que cette réalité. Mohamed Benmedour, merci d'avoir témoigné ce matin sur RMC et réagi donc à ces annonces. Je rappelle que vous êtes vous-même éducateur donc dans les quartiers nord de Marseille. Il est 7h18.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Plus de 2 milliards d'euros, record d'amende pour les radars sur nos routes. Est-ce qu'il faut continuer à en installer ou est-ce qu'il faut arrêter? Deux points de vue à 7h40 pour vous faire votre opinion. Et j'attends d'ailleurs vos témoignages au 32-16. Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin. A tout de suite sur RMC.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu avec Victor Joannin du service éco d'RMC. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline.
Mon invité ce matin à 8h35, c'est Sophie Binet, la numéro 1 de la CGT. Elle défilera cet après-midi à Paris pour la fête du travail avec deux mots d'ordre. Le refus de l'austérité mais aussi la lutte contre l'extrême droite.
Oui, le syndicat de Sophie Binet qualifie l'extrême droite de pire ennemi des travailleurs et travailleuses dans son appel à manifester. Et c'est vrai que la CGT est en pointe sur ce sujet avec des dizaines de formations organisées dans les unions départementales pour aider les militants à argumenter contre le programme du RN auprès des salariés, mais aussi plusieurs rendez-vous récents, une manifestation sur les terres de l'ultra-conservateur Robert Ménard à Béziers la semaine dernière, et une table ronde organisée mi-avril avec des syndicats italiens et allemands. L'idée est de faire front commun pour contrer l'extrême droite à quelques semaines de l'élection européenne. Alors que le candidat du RN, Jordan Bardella, survole les sondages, les responsables syndicaux le savent, leurs troupes sont de moins en moins étanches. reproche au discours du Rassemblement National. Aveu du responsable d'un bastion syndical dans les transports, le RN va cartonner chez nos gars, prédit-il. Ils en parlent librement alors qu'avant c'était tabou. Un sondage de 2022 vient appuyer cette observation. Marine Le Pen récolte 21% des suffrages chez les sympathisants des syndicats. 5 ans plus tôt, c'était seulement 13%. En clair, les syndiqués votent un peu moins pour l'extrême droite que la population générale, mais ce constat est de moins en moins vrai.
Pourtant, Victor, les syndicats ne parlent pas d'une seule voix sur ce sujet, hein.
Oui, plusieurs syndicats s'affichent ouvertement contre le RN et ses idées, la CGT donc, mais aussi la CFDT. Chez les deux premiers syndicats de France, le cordon sanitaire tient encore. Pas question de discuter avec les élus d'extrême droite et tout responsable syndical qui s'affiche à leur côté est exclu. Mais il faut convaincre sans braquer ni stigmatiser les électeurs. Dans l'agroalimentaire par exemple, un secteur ouvrier où les travailleurs immigrés sont en nombre, la CFDT ne donne plus de consignes de vote, mais s'applique à décrypter les positions du RN au Parlement européen pour montrer qu'elles vont contre les intérêts des salariés, quitte à perdre des adhérents. En revanche, d'autres syndicats sont plus en retrait. Ainsi, Force Ouvrière, troisième syndicat français, ne défilera pas aujourd'hui avec les autres à Perpignan pour protester contre la manifestation du RN parce que ses responsables veulent rester neutres. Le numéro 1 de la CFTC est sur la même ligne. Nos valeurs sont opposées à celles des partis extrêmes, mais je ne fais pas de politique. Chacun son rôle, explique Cyril Chabanier, qui accepte de discuter désormais avec les députés RN depuis qu'ils ont un groupe parlementaire.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec autour de la table Amélie Rosic, Manu Le Chip, Charles, bien sûr.
Bien sûr.
Et on embrasse Arnaud Demange qui fait la grasse mat. Amélie, aujourd'hui vous avez enquêté sur le développement des parcs éoliens en France.
Oui, c'est les résidents d'une commune rurale de Haute-Saône qui nous ont écrit. Fresnes-Saint-Mamet, 512 habitants, une église, un tabac presse qui fait aussi pizzeria, des champs à perte de vue et bientôt 6 grandes éoliennes. Un projet qui inquiète les riverains comme Florent. Il vit dans un pavillon avec sa femme et ses deux enfants.
Quand on monte une structure à 800 mètres de chez vous, de 250 mètres de haut, donc 50 mètres de moins que la tour Eiffel, c'est pas du tout adapté. On va subir une pollution visuelle, une pollution sonore, une dévaluation immobilière.
Et pourtant, Florent n'est pas foncièrement opposé aux éoliennes, c'est ce qu'il nous explique. Ce qui le gêne le plus, c'est la méthode.
Dans les milieux ruraux, on est de moins en moins écoutés, quoi. Les citoyens sont amenés à faire des observations. Mais en aucun cas, on leur demande leur avis. Je trouve ça aberrant, oui.
Florent a reçu la visite du promoteur éolien il y a un mois et demi. L'entreprise souhaitait installer des sondes acoustiques chez lui pour une étude de faisabilité, une demande qu'il a refusée.
Alors, quelles sont les règles pour implanter un parc éolien ?
Avec Guillemette Franquet, nous avons enquêté. La réglementation est effectivement très stricte, mais honnêtement, il faut un peu s'accrocher pour tout comprendre. Aucune éolienne ne peut être installée à moins de 500 mètres d'une habitation. Ça, c'est la grande règle. Et ensuite, il y a des étapes à respecter. Concertation avec les élus et la population. Étude d'impact, enquête publique, puis le préfet décide d'autoriser ou non le projet et ce processus dure au minimum un an et demi.
Et dans le cas du projet éolien à côté de chez Florent, est-ce qu'on a respecté les clous ?
Pour l'instant, oui, c'est ce que nous a confirmé le ministère de l'économie, parce que c'est le ministère de l'économie qui gère les dossiers des éoliens. Là, on est dans la phase de concertation. Sauf que le maire prétend être à peine au courant, alors qu'il fait partie du processus et il doit le porter. Alors forcément, les riverains se sentent exclus du projet. Nous avons rappelé au maire que même s'il s'agit d'un projet privé, il est partie prenante dans la concertation et nous vérifierons que l'élu accompagne Florent et ses voisins comme il doit le faire. Si le projet est validé, les habitants pourront toujours le contester. D'ailleurs, nous explique le ministère de l'économie, les autorisations sont quasi systématiquement attaquées en justice désormais. Une chose est sûre, le développement des parcs est une volonté politique. Vous le savez, la loi sur les énergies renouvelables de mars 2023 facilite leur implantation. Elle accorde aussi plus de pouvoir aux élus, donc aux maires, et puis des retombées économiques pour les communes, 20% dans le cas qui nous concerne. Ça, c'est de manière à favoriser l'acceptabilité sociale de la question de l'éolien.
Mais dans le cas de Florent, ce que je trouve intéressant, aussi, c'est les mots qu'il utilise.
Absolument.
Quand il dit, c'est une pollution visuelle, une pollution sonore, une dévalorisation aussi de son bien. On peut le comprendre, on ne le laisse pas tomber, on vérifiera tout. Hein.
Bien sûr.
Merci Amélie. L'actu éco, Manu, avec de bonnes nouvelles. La croissance française a été un peu plus forte que prévu en début d'année.
Oui, les experts attendaient 0%.
3,5% stagnation au premier trimestre. Eh bien, l'INSEE nous a dit hier que finalement, cette croissance avait été positive, plus 0,2%, parce que la consommation a été un peu plus forte que prévu, grâce à la progression des revenus, alors que l'inflation recule, et ça, c'était l'autre bonne nouvelle aussi hier. Ça veut dire donc plus de pouvoir d'achat, un pouvoir d'achat mis notamment au service des loisirs, des sorties et de l'alimentation, puisque les Français ont repris le chemin des rayons alimentaires dans les grandes surfaces. Et puis surtout, les entreprises ont recommencé à investir, notamment dans les outils informatiques et les flottes automobiles.
Alors, est-ce que la prévision de croissance de 1% qui nous paraissait quand même très gourmande de la part du gouvernement redevient crédible ?
Mais oui, c'est toujours le psychodrame, parce qu'évidemment, avec une prévision de croissance un peu optimiste, ça embellit vos comptes publics pour l'année qui vient, puisque ça fait du coup plus de recettes, vous allez dépenser un peu moins. Et donc, effectivement, tout le monde se moquait du gouvernement. Ouh, 1% de croissance en 2024, jamais on les fera. Et ben là, finalement, cette prévision, elle reste optimiste, mais réaliste, puisqu'il suffit de faire 0,3% de croissance à chaque trimestre pour atteindre les 1%. Or, l'INSEE nous dit qu'au printemps, là, on fera 0,3%, puis après, on se dit, avec la baisse des taux d'intérêt, l'Allemagne qui va un peu mieux, la Chine qui repart, etc. Ça reste une prévision optimiste, mais ça n'est plus complètement impossible.
Et je comprends mieux pourquoi Monsieur Le Maire finit par accepter l'invitation que je lui lance depuis 3 mois.
C'est demain ou jamais.
Il sera là demain, et je comprends mieux, effectivement, il préfère venir quand il y a des bonnes nouvelles.
Pas de dégradation de la note de la France, un bon chiffre de croissance, Apolline Matin, et ça s'appelle un grand chelem.
Il y a Moody's et puis il y a Apo. Voilà. Il est 7h27, on se retrouve dans un instant pour la météo du journal. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Langean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ils veulent leur part du gâteau après les cheminots et les contrôleurs aériens. C'est au tour des éboueurs de Paris d'agiter la menace d'une grève pendant les Jeux Olympiques. Information RMC, la CGT a déposé 2 préavis. La 14 remboursée de moitié en attendant la réouverture de la 13, mais uniquement pour les covoitureurs et sur les heures de pointe. Et puis le choc Dortmund-PSG en demi-finale allée de la Ligue des Champions. C'est ce soir à 21h sur RMC.
Va-t-on vivre les Jeux Olympiques au milieu des poubelles ?
On vous en parlait la semaine dernière sur RMC. Les compensations financières obtenues par les cheminots de la SNCF et les contrôleurs aériens ont donné des idées à d'autres secteurs et notamment celui des éboueurs de Paris. C'est une information qu'RMC vous révèle ce matin. La CGT a déposé hier 2 préavis de grève qui couvrent toute la durée des Jeux. Marion Gauthier, concrètement, que réclament les éboueurs ?
Des primes essentiellement pour les JO d'abord, 1900 euros pour tous les agents de Paris qui seront tous sursollicités, insiste la CGT de la branche déchets et assainissement. Sur sa liste de revendications également, augmentation de 400 euros par mois pour tous, toute l'année. Éboueurs, conducteurs de petits engins qui nettoient par exemple les trottoirs, à chaque corps de métier sa mesure spécifique. Nous voulons négocier, insiste Christophe Farinier, l'un des responsables de la CGT.
Les Jeux Olympiques ne se feront pas sans les revendications des salariés. Mais non, on n'a pas vocation à gâcher ces Jeux Olympiques. C'est un levier de pression, mais si la pression, c'est bien parce qu'à un moment, le politique ne subvient pas aux revendications des salariés. Si l'exécutif parisien négocie avec la CGT, il n'y aura pas de souci.
Le syndicat s'oppose encore aux délégations de services publics qui devraient être testées pendant les Jeux. Ils veulent privatiser, alerte Christophe Farinet, qui conclut « la balle est dans le camp de l'exécutif parisien ».
Et en cette fête du travail, au moins 270 rassemblements sont prévus partout en France, dont un au départ de la place de la République à Paris. 15 à 30 000 personnes sont attendues et cette année encore, Guillaume Bier, le cortège syndical pourrait être perturbé.
Le défilé parisien cet après-midi entre République et Nation risque d'agréger toutes sortes de militants en quête de visibilité, à commencer par les opposants à la tenue des prochains Jeux Olympiques. Plusieurs collectifs de détracteurs ont appelé à mener des actions lors de cette journée, à une semaine de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Les activistes de la mouvance d'ultra-gauche, eux aussi, devraient se manifester. Organisés comme d'habitude en black bloc, ils pourraient être entre 400 et 800, estiment les policiers du renseignement. Enfin, dans le contexte géopolitique, des militants pro-palestiniens devraient également s'inviter dans le cortège syndical, ainsi que des opposants au régime iranien. Face au risque d'incidents, en plus des effectifs de maintien de l'ordre, la préfecture de police mènera des contrôles préventifs bien en amont du défilé.
Le Rassemblement national, lui, fera son 1er mai à Perpignan. Plusieurs syndicats locaux appellent à la mobilisation contre le traditionnel rassemblement de l'extrême droite. Une marche blanche organisée samedi en hommage à Mathis, l'adolescent tué le week-end dernier à Châteauroux. Il est 7h33, des dizaines d'étudiants ont été arrêtés hier soir à l'Université de Columbia à New York. Ils ont été délogés par la police après 24 heures de blocage en soutien aux Palestiniens. La présidente de l'université réclame une présence policière sur le campus jusqu'au 17 mai. En France, après plus de 10 jours de fermeture de l'autoroute A13, les automobilistes obtiennent enfin un début de réponse. L'État va prendre en charge la moitié du prix du péage de l'A14. Un trajet alternatif mais très onéreux. C'est l'autoroute la plus chère de France. En attendant donc la réouverture partielle de l'A13 prévue le 11 mai prochain. Mais cette aide, Margot Boult, ne sera pas pour tout le monde.
Il aurait préféré un péage gratuit sur la 14, mais Carl Olive, député des Yvelines, est satisfait. Cela faisait 10 jours qu'il réclamait une aide pour les automobilistes.
C'est une bonne nouvelle et je suis ravi que le ministre des Transports prenne cette décision. C'est une décision pragmatique et je suis heureux qu'on ait écouté le terrain. Et je suis très heureux d'abord pour les usagers.
Des usagers qui ne pourront pas tous toucher cette aide. Elle est réservée aux covoitureurs. Il faudra être au moins 2 dans la voiture pour avoir la ristourne, ce qui laisse beaucoup de monde en dehors de la mesure, regrette Pierre Chasseret, directeur de l'association 40 millions d'automobilistes.
On donne un petit quelque chose pour ceux qui sont en capacité de pratiquer le covoiturage. Je me mets à la place de celui qui n'a pas cette opportunité, qui travaille en horaire décalé. Il va encore voir le train passer devant ses yeux sans avoir droit à quoi que ce soit.
La mesure sera mise en place à partir de lundi prochain, uniquement en semaine et sur les heures de pointe.
Et puis tiens, un chiffre, 2 milliards d'euros, c'est ce qu'ont rapporté les radars en France l'an dernier. Un petit pactole en augmentation de 7% sur un an selon la Cour des comptes. Et forcément, ils sont plus nombreux, 130 radars de plus qu'en 2022. Il est 7h35, c'est le grand soir pour le PSG. Les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Borussia Dortmund à 21h pour tenter de décrocher leur place en finale de Ligue des Champions. Alors évidemment, les supporters comptent sur Mbappé ou encore Dembélé, mais l'autre homme fort de cette saison, Arthur Perrault, c'est Vitinha.
Oui, Vitinha a changé de dimension cette saison au point d'être l'un des meilleurs joueurs parisiens. Un bilan impressionnant, 9 buts et 5 passes décisives. Son compatriote et coéquipier Gonçalo Ramos.
C'est l'un des joueurs les plus importants de notre équipe cette saison. Je ne suis pas surpris parce que je le connais depuis 2016. Je connais ses qualités. C'était juste une question de temps avant d'atteindre son niveau.
Arrivé en juin 2022 en provenance de Porto, Vitinha a réussi à faire oublier le départ de Marco Verratti à 24 ans. Il s'est parfaitement acclimaté à son nouveau club. L'entraîneur Luis Enrique est impressionné.
Il fait une saison incroyable. Il est à la hauteur des meilleurs milieux de terrain du monde. Il peut jouer lié à l'intérieur, numéro 6. Il est très important. Il a cette capacité à marquer des buts. Il s'est aussi amélioré en défense, il est capable de marquer les joueurs, de ne pas se faire prendre dans le dos.
Très performant en Ligue des Champions, Vitinha est suivi en Europe. Le PSG souhaite verrouiller sa nouvelle pépite en prolongeant son contrat qui court jusqu'en juin 2027.
Et pour l'occasion, soirée spéciale dès 18h sur RMC. À la télé, rendez-vous sur RMC Sport 1. De leur côté, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont neutralisés hier soir de partout. Tout se jouera à Madrid mercredi prochain.
Tiens, parce qu'on parle au foot, je voudrais qu'on fasse un petit tour par le 32-16 parce qu'il y a Myriam qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Myriam.
Bonjour Apolline, bonjour tout le monde, ça va?
Myriam, ça va très bien. D'abord, vous vouliez nous parler du muguet, parce que je crois quand même que vous êtes commerçante et que vous vendez du muguet.
C'est ça. Ah. C'est un petit commerce de proximité à Saillant et vous avez 5 brins de muguet qui vous attend.
Ah, c'est sympa ça. À Saillant, vous êtes où exactement pour que ceux qui sont dans le coin puissent passer?
C'est dans la Drôme entre Cré et Die.
Non, mais ça, je vois bien Saillant, mais vous êtes où dans Saillant?
Ah, en face l'église.
Ah voilà, en face l'église.
Voilà. On va aller mettre un cierge pour l'OM et puis ça va aller.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire.
PSG,
alors,
Myriam,
j'imagine que dans la Drôme, vous êtes plutôt OM, mais ce soir alors?
Ah non, moi jamais PSG. Oula, ça va là. Ils sont moches, leur maillot est moche, rien n'est beau.
Oh, ça c'est réglé. Ouais.
Oh, bah, c'est une bonne raison. C'est vrai que non, d'habitude, on parle foot, on parle jeu. Non, vous, c'est moche. Sont moches.
Non, moi je les regarde pas. Voilà.
Ah donc ce soir, par contre ce soir vous allez pas aller jusqu'à
par contre,
carrément.
Mon mari va les regarder, mais
il
même
va regarder,
s'il est pas
mais
pour
il va
eux,
pas être...
il les regarde.
Il les regarde, mais ce soir il sera quand même un peu pour eux ou il sera quand même pour les Allemands?
Non, il sera pour les Allemands. Mais de toute façon, je rassure Mathieu quand même, Ils vont la gagner cette année, c'est pour eux. Pardon.
Mais à jamais les deuxièmes, j'ai bien compris.
Oh, ils vont la gagner. Ils vont la gagner.
Et vous aussi, Myriam. Vous aussi, Myriam, vous allez la gagner.
Non, on a l'habitude de perdre, Charles.
Monsieur, bah moi, je serai derrière vous demain, Myriam.
C'est gentil, aussi,
Charlie,
mais non.
Charlie, fair play, quand même.
Oui, mais moi, je serai jamais pour Paris. Même si Kylian est en équipe de France, je suis pour Kylian quand même.
Ah, quand même.
Ah, quand même.
Voilà, on sera tous ensemble pour l'Euro, Myriam.
Allez, Myriam, merci en tout cas d'être passée justement pour nous parler à la fois du Muguet et du PSG. Il ne faut pas oublier les courses. C'est tout le quinté aujourd'hui.
Tiens, sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le numéro 3, Sadak. Et l'outsider, c'est le numéro 2, Jojo Junior, qu'on adore. La course du quinté à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise. Dans Jean-Yves, 7h39.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Est-ce qu'il faut arrêter d'installer des nouveaux radars sur nos routes? 2 milliards d'euros récoltés l'an dernier, nouveau record. Mais est-ce qu'il faut en finir avec le tout radar quand on voit les chiffres de la mortalité routière qui repartent à la hausse? Dans un instant, deux points de vue. Celui du journaliste automobile Benjamin Cuc et celui de Pierre Lagache de la Ligue contre les violences routières. Venez également témoigner et prendre part au débat. On vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et cette question justement des radars, est-ce qu'on est allé trop loin dans le tout radar quand on voit ces records d'amendes? On vous pose la question ce matin au 32-16 et sur l'appli RMC. Je vois Françoise qui nous écrit: moi j'ai perdu un point l'année dernière à cause d'un nouveau radar à 30 en centre-ville et franchement je suis une conductrice prudente, je respecte en permanence le code de la route, jamais un accident en 35 ans de permis. J'ai quand même eu l'impression de me faire un peu avoir, aujourd'hui j'ai peur encore de me faire flasher, donc je passe presque plus de temps sur la route à surveiller les radars plutôt qu'être attentif aux autres dangers. Voilà ce que nous écrit Françoise. Ludovic nous dit: les vraies causes de la mortalité routière, on les connaît, l'alcool, la drogue, le portable, la somnolence, mais on préfère taper l'automobiliste au portefeuille pour des petits excès de vitesse. Les premiers radars avaient du sens il y a 20 ans pour lutter contre les chauffards, mais aujourd'hui ce sont juste des pompes à fric. Voilà ce qu'écrit Ludovic. Et puis Eric nous écrit: arrêtez de planter des radars au bord des routes, mais remettez des gendarmes, il faut de la présence humaine pour surveiller les comportements les plus dangereux, écrit Eric. Vous aussi, vous témoignez évidemment, vous connaissez le chemin, le 32-16 pour être en direct sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et on va partir sur les routes.
L'invité du jour.
Deux invités du jour pour tout comprendre de ce chiffre qu'on a donc appris hier. 2 milliards d'euros, c'est le montant record des amendes des radars automatiques. Benjamin Cuc est avec nous dans ce studio. Bonjour, vous êtes journaliste automobile et puis en ligne avec nous, il y a Pierre Lagache de la Ligue contre les violences routières. Benjamin Cuc, je voudrais commencer avec vous. Où va l'argent, ces 2 milliards qui sont récoltés avec les amendes des radars, ça va où?
C'est les amendes, 2 milliards, en fait, ce sont les amendes globales de verbalisation pour les excès de vitesse. Et ça va où? Ça va pour moitié, normalement, à la prévention routière, à la sécurité routière, sauf qu'on se demande où elle va, parce que les chiffres de la sécurité routière restent de toujours de 3 000 morts par an en France, alors qu'on en a 1 500 en Grande-Bretagne, à population strictement équivalente, 67 millions d'habitants. Et l'autre partie va renflouer les caisses de l'État, tout simplement.
Oui, va quand même être utilisé pour l'État. On sait bien qu'en ce moment, en plus, ils vont chercher l'argent partout. Pierre Lagache, l'impact sur la sécurité routière, comme le disait Benjamin Cuc à l'instant, effectivement, non seulement les chiffres-là ne sont pas très bons, on a vraiment l'impression qu'ils n'arrivent pas à descendre en dessous d'un certain seuil, mais surtout, ils sont repartis légèrement à la hausse.
Ah oui, pas légèrement, hein, puisque depuis le mois de septembre dernier, on a un nombre de morts sur les routes en France qui réaugmente. Et sur la période de septembre à mars, on a à peu près 10% chaque mois d'augmentation des morts sur les routes, avec un record en mars, plus 31%. Donc effectivement, on est dans une séquence qui n'est pas du tout satisfaisante au niveau de la sécurité routière.
Et comment est-ce que vous expliquez ça?
Si vous voulez, nous, ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années, c'est une politique de sécurité routière qui est à l'arrêt. Hein. La dernière mesure vraiment significative qui a été prise par le gouvernement, ça a été le 80 km/h. Puis il y a une marche arrière avec la possibilité de revenir au 90. On a eu des effets d'annonce et puis une nouvelle mesure l'année dernière sur l'affaiblissement du permis à points, puisque la suppression du point a été finalement supprimée sur les petits excès de vitesse, alors qu'on sait que ces petits excès de vitesse ont aussi un rôle important dans les accidents. accident grave. Donc il y a beaucoup de signaux qui ont été envoyés, si vous voulez, par le gouvernement, qui laissaient à penser que la sécurité routière n'était plus une priorité. Voilà. Oui. Alors que les résultats ne sont pas bons. On stagne depuis 10 ans. Le résultat de 2023 est comparable à celui de 2013. Donc, voilà, c'est un ensemble, finalement,
Précisément là-dessus, Benjamin Cuc, vous venez d'évoquer la Grande-Bretagne. Vous qui observez tout ça, qui êtes journaliste automobile, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'ils font de mieux?
Ils font mieux une éducation. Et ils tolèrent zéro, c'est-à-dire que si vous prenez un mois de prison pour conduite en état d'ébriété, vous partez un mois en prison. On réclame une intolérance zéro envers les délinquants chevronnés, mais on considère pas que les délinquants de la route sont des délinquants. Et c'est un vrai problème. Là, la question des radars, sur les 250 morts qu'on a eu en mars, les 31%, faut voir que c'est seulement 120 automobiles qui sont impliqués dans les accidents.
Oui, donc c'est des accidents qui font plusieurs morts.
Non, ils font plusieurs morts, mais aussi des cyclistes. Les cyclistes, il n'y a pas un cycliste qui respecte le code de la route. Mmh. Il y a une augmentation des piétons, parce que les piétons traversent n'importe où, le téléphone à la main, en regardant leur téléphone, généralement, ils regardent, ils se font percuter par un camion, c'est la faute du camion qui tourne. À chaque fois, il y a une déresponsabilisation de l'usager de la route, de l'usager de la chaussée même.
Même si, honnêtement, vous ne pouvez pas dire que si le cycliste meurt, c'est la faute du cycliste.
Bah, ça dépend pourquoi.
Il peut avoir une forme de responsabilité.
Je veux dire, s'il grille le feu rouge, il est de sa responsabilité. La responsabilité individuelle n'est jamais totalement exonérée de l'individu.
Pierre Lagache.
Oui. Bah écoutez, je pense qu'on trouvera pas les solutions en opposant les usagers de la route les uns par rapport aux autres. Hein. Je crois que la responsabilité, elle est largement partagée. Donc il y a une notion de responsabilité collective, que ce soit de la part des automobilistes, des cyclistes, des piétons, bien évidemment. Mais enfin, il faut quand même rappeler que quand on est cycliste ou quand on est piéton, on est un usager vulnérable. Donc quand on est à bord d'une automobile, on se doit bien évidemment d'être précautionneux par rapport à ces usagers-là.
Je voudrais qu'on parle aussi de la question de l'état des routes. Et de ce point de vue-là, il y a Thierry qui nous appelle au 3216, qui nous appelle du Loiret. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Thierry, il fait je ne sais pas combien de kilomètres par an, parce que vous êtes conducteur poids lourd, donc j'imagine que vous en avez beaucoup au compteur là.
Oui, il y en a un petit peu, ouais. Mais ça varie, il y a des semaines c'est 1500, puis il y en a d'autres c'est 3000. Oui. Donc ça dépend.
C'est ça, mais enfin 1500 c'est une petite moyenne quoi.
Quand on n'est pas motivé en fait.
Thierry, ces routes, elles sont dans quel état? Qu'est-ce que vous en observez? Est-ce que vous vous dites qu'au fond ces 2 milliards ça pourrait être une manne pour les réparer?
Bah, je sais pas comment ils font pour récupérer 2 milliards déjà avec les radars, puisque la plupart du temps quand vous avez des radars sur les chaussées, tout le monde freine. Donc s'ils se font flasher sur un radar qui est planqué, ils sont très très bien planqués, il y en a vraiment très beaucoup, exceptionnellement beaucoup. Mais
l'état des routes
après, l'état des routes, moi, dans l'ensemble, il est pas trop mal. Il y a certaines communes où ça laisse un petit peu à désirer. Moi je vois sur Orléans, on a un axe est-ouest qu'on appelle la tangentielle, ils sont toujours en train de faire des travaux dessus, et ça n'empêche pas les gens d'avoir des accidents puisqu'ils vont trop vite. C'est la responsabilité de l'usager de la route en fait, hein. Principalement.
Tous les usagers de la route, si je vous reprends, Madame Cuc, mais effectivement, c'est tout à fait de la responsabilité. Et d'ailleurs, on avait tout à l'heure un chauffeur comme vous qui conduisait à la fois le camion et le car et qui disait j'ai toujours mes 12 points, j'ai pas payé d'amende, je respecte scrupuleusement, mais pas seulement pour pas avoir les amendes, aussi tout simplement parce que je pense que ma vie est en jeu. Je voudrais qu'on reprenne les derniers chiffres aussi de la mortalité routière avec vous, Pierre Lagache. Quand vous dites qu'il y a ce bond de 31%, l'augmentation, elle est principalement due à la vitesse. Est-ce que, précisément, vous estimez que les différentes décisions récentes, vous disiez, on est passé au 80, puis finalement on a dit non, 80 va remonter à 90, puis entre-temps on a annoncé aussi que les petits excès de vitesse, ce serait pas si grave, ou en tout cas on a donné le sentiment que c'était pas si grave. Est-ce que vous estimez, Pierre Lagache, que ça a vraiment un impact immédiat et une responsabilité dans l'augmentation récente du nombre de morts sur la route?
Pour répondre à votre question, il faudrait déjà étudier les choses un peu plus finement, mais on sait que dans l'histoire de la sécurité routière, à chaque fois qu'on a eu un relâchement de la politique au niveau national, on a eu un relâchement des comportements et une augmentation des vitesses moyennes. Et quand il y a une augmentation des vitesses moyennes, on a plus d'accidents graves. C'est ce qu'on a observé notamment là sur le mois de mars, hein, où finalement on a observé une gravité des accidents avec beaucoup plus de morts finalement en moyenne dans les accidents observés. Et ça, il a il y a fort à parier quand même qu'il y a un impact de la vitesse. Il faudra le démontrer dans les études, mais voilà, c'est une probabilité très très importante.
Quelle suite, Benjamin Cuc, quand on voit, est-ce que le gouvernement prévoit de continuer à rajouter des radars, notamment ces fameux radars chantiers, hein, ceux qui sont beaucoup plus difficiles à voir. Quelle est la logique là?
La logique, elle est un peu absurde, c'est-à-dire que sur les 4700 radars en activité actuellement, il n'y en a que 3500 qui fonctionnent, puisque la plupart sont dégradés ou hors service. La réalité aussi, c'est que la politique du gouvernement est calamiteuse, pour une bonne raison, c'est que le petit point en moins sur la suppression du petit point en moins sur les petits excès de vitesse, comme disait Monsieur Darmanin, a eu pour effet, c'est qu'en ville, les gens se lâchent, sauf que 30 km/h en ville, 20% au-dessus de la vitesse limite, ça fait 36 km/h. Vous tapez, ouais. Vous avez des enfants. Ouais. S'ils sont tapés par une voiture au-dessus des 30 km/h, c'est dramatique. Sur autoroute, 20, on pourrait rouler à 150 sur autoroute avec les voitures modernes, parce que le législateur n'a jamais considéré l'évolution technique des automobiles. Ça change rien, parce que si vous percutez à 130 ou à 150, le résultat est le même. Donc, par contre,
ça
en ville.
Ça me paraît incohérent. J'ai quand même une dernière question. Est-ce que cette augmentation du nombre de radars, elle a vraiment pour objectif de baisser la mortalité et les accidents, ou est-ce qu'elle a pour objectif de rapporter de l'argent?
Elle a pour objectif de rapporter de l'argent, comme les véhicules de vidéo-verbalisation, comme tous les systèmes de vidéo-verbalisation où les types, des agents assermentés verbalisent au doigt levé une bagnole qui franchit de 2 cm une ligne continue. On est rentré dans l'état 1984. Big Brother is watching you.
Merci à tous les deux, Benjamin Cuc, donc journaliste automobile, et en ligne avec nous Pierre Lagage de la Ligue contre les violences routières. Merci aussi à Thierry sur les routes du Loiret. Il est 7h51 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, expliquez-nous Nicolas Poincaré.
Je vous explique qu'un rapport du ministère de l'Éducation nationale fait le point sur l'affaire Samara, cette jeune fille qui avait été violemment battue à Montpellier.
À tout de suite.
Apolline Matin. Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Charles, c'est aujourd'hui que sort en salle la comédie d'Artus sur le handicap.
Un petit truc en plus, c'est le titre de ce film écrit par Artus, dans lequel il joue un braqueur qui, pour échapper à la police, va se réfugier dans une colonie de vacances pour jeunes en situation de handicap.
Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi?
Tu n'es pas handicapé.
Si, tu veux pas handicapé.
Mais on ne voudrait pas.
T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne.
Je dis rien à personne. À pas Ludovic.
C'est qui Ludovic?
C'est ma petite bite. C'est ce qu'ils font en prison dans les douches.
Pardon?
Une série de gags, mais aussi évidemment un message très humain et touchant. Mais en 2024, le sujet du handicap reste tabou. D'ailleurs, Artus explique qu'il a eu beaucoup de mal à convaincre les producteurs.
Il y en a plein qui nous ont dit non, personne n'a envie de voir 10 handicapés au cinéma. Et puis honnêtement, moi j'ai été surpris de la façon dont certains l'ont dit vraiment frontalement, quoi. Frontalement, non. C'est bon, les gens n'ont pas envie de voir ça. Et maintenant, tant que le film n'est pas sorti, tant que les gens ne sont pas allés le voir, on n'a pas la réponse de si c'était une bonne idée ou pas. Si le film est un succès, et je l'espère du fond du cœur. On a fait des avant-premières qui ont bien marché. Donc, ça repousse pas le handicap, contrairement à ce que malheureusement certaines personnes pensent.
Ça s'appelle donc Un petit truc en plus, un film avec des handicapés, pas sur les handicapés, comme le dit Artus, et c'est en salle aujourd'hui.
Je ne suis pas handicapé, hein. J'ai un petit truc en plus. Maman a dit, Sylvain, il a un petit truc en plus. Au centre, il m'appelle Sylvain-T1.
RMC, Apolline Matin.
17h55, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. Ce matin, nous revenons en détail sur une affaire dont on avait beaucoup parlé sur RMC et d'ailleurs partout il y a un mois. L'affaire Samara, c'est cette jeune collégienne violemment agressée à Montpellier. La ministre de l'Éducation avait commandé une enquête administrative. Elle vient d'être rendue publique, vous l'avez lu.
Oui, et les résultats de cette enquête du ministère de l'Éducation nationale étaient très attendus parce que la mère de Samara, juste après l'agression de sa fille, avait dénoncé son collège qui n'avait pas su la protéger. Et après enquête, donc le ministère de l'Éducation répond « pas du tout ». Il n'y a eu aucun manquement de la part de l'établissement. Le rapport détaille cette journée du 2 avril dernier. Samara, 13 ans, a été vue par son professeur principal à 12h30 alors qu'elle avait une altercation avec un autre élève. Le professeur est intervenu 2 fois pour calmer tout le monde. Il n'y a pas eu de violence à ce moment-là. Puis le prof a eu la mère de Samara au téléphone pour lui suggérer de venir chercher sa fille à 16h30. Mais il n'a pas insisté parce que rien à ce moment-là ne laissait présager quelque chose de grave.
Et la mère de Samara, elle affirme pourtant qu'elle a appelé le collège pour demander que sa fille ne sorte pas à 16h30.
Oui, et c'est pour elle la faute principale de l'établissement, n'avoir pas pris en compte sa demande. Sauf que, eh bien, c'est faux, d'après le rapport. La mère n'a pas appelé le collège à la mi-journée, elle n'a pas demandé que sa fille ne sorte pas. Les inspecteurs indiquent qu'après avoir procédé à des vérifications, rien ne corrobore les propos de la mère de Samara.
La mère de Samara qui accuse aussi le collège de ne pas avoir mesuré le harcèlement dont sa fille était victime.
Et là encore, les inspecteurs de l'éducation nationale contestent ces accusations. Samara était effectivement en conflit depuis l'année précédente, c'est-à-dire depuis la cinquième, avec une élève qui lui reprochait de publier sur les réseaux sociaux des photos des élèves sans leur accord. Le rapport indique que le collège s'est préoccupé de ce conflit dès le printemps dernier, que Samara a été reçue, qu'elle a indiqué que c'était une histoire ancienne et qui était maintenant réglée, et elle n'a pas voulu donner les noms de ceux qui l'a harcelée. En janvier de cette année, la vie scolaire a de nouveau fait un signalement pour protéger Samara, estimant qu'elle était trop souvent en conflit avec les autres élèves. La collégienne a de nouveau été reçue par une adulte référente, elle a été invitée à prévenir si elle avait de nouveaux problèmes, et elle a ensuite fait l'objet, depuis le mois de mars de cette année, d'un suivi resserré. À en croire le rapport, donc l'équipe du collège a fait son travail, et c'est d'ailleurs un collège où les questions de harcèlement sont prises très au sérieux.
La mère de Samara, elle conteste les conclusions de ce rapport.
Eh bien forcément, parce que ses conclusions lui sont assez défavorables. Ce qu'elle vit mal, on me traite de menteuse, dit-elle ce matin sur RMC. Elle se sent trahie, a fait savoir son avocat. Pour cet avocat, il y a une forme de corporatisme des enseignants. Il s'étonne que Samara n'ait pas été entendue par les inspecteurs, ce que confirme d'ailleurs le rapport qui indique qu'elle est encore trop fragile psychologiquement et qu'elle n'a pas été auditionnée aussi parce qu'elle refuse de s'exprimer sur ce qui s'est passé avant l'agression.
Reste la question du communautarisme.
Oui, le communautarisme et la religion, c'est ce qui avait fait que cette agression avait fait la une des médias. La mère de Samara avait indiqué que sa fille était harcelée parce qu'elle s'habillait à la française et qu'elle avait aussi été traitée de mécréante. Le rapport le constate, mais relativise. Je cite, le sujet communautaire n'est pas absent, mais il n'a pas joué un rôle prépondérant. Et c'est sur ce point, le seul d'ailleurs, que l'avocat et la mère de Samara sont d'accord. Ce n'est pas un élément important du dossier, dit l'avocat. Ce qui a surtout été déterminant, en fait, on s'aperçoit en lisant le rapport, c'est que ce sont les réseaux sociaux et notamment ces pages Ficha où les jeunes postent des photos humiliantes. Voilà donc pour les principales conclusions de ce rapport qui émane de l'éducation nationale et qui exonère l'éducation nationale. Parallèlement, l'enquête judiciaire se poursuit. 5 jeunes ont été mis en examen pour tentative d'homicide.
Merci pour ces explications approfondies, Nicolas. Il est 7h58, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal à la une du journal de 8h. PSG face à Dortmund ce soir. On sera avec Jeannot Rességuier dès le début du journal. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.